Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإن وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 19 juillet 2021. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Hajj 2021, message du leader. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, message du guide suprême aux nations musulmanes à l'occasion du Hajj. L'entretien téléphonique entre les ministres iraniens et chinois des affaires étrangères. Et puis une nouvelle session virtuelle du Conseil suprême de l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique, débutée à Téhéran sur le thème de l'Afghanistan, la paix et la sécurité durable. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique d'Iran, dans un message aux pèlerins du Hajj, a appelé les musulmans à résister à l'agression et à la méchanceté des puissances occidentales. L'ayatollah Sayyid Ali Khamenei a déploré le fait que les nations musulmanes soient pour la plupart soumises à la cupidité et à l'ingérence des pays occidentaux agressifs au cours des 150 dernières années. L'ayatollah Khamenei a noté qu'il est maintenant temps pour le monde musulman de rattraper le passé. Il a déclaré que la résistance contre les États-Unis et d'autres pays transgresseurs aiderait les musulmans à prendre leur destin en main. Le leader a averti que les États-Unis cherchaient à déformer la volonté, les demandes et les actions des forces de la résistance dans la région. L'entretien téléphonique entre les ministres iraniens et chinois des affaires étrangères lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois, Mohammad Javad Zarif, a insisté sur la coopération irano-chinoise en faveur de la paix en Afghanistan et pour les questions bilatérales. Lors de cette conversation téléphonique, Wang Yi a salué la contribution de l'administration Hassan Rouhani au développement des relations irano-chinoises au cours des 8 dernières années. La Chine souhaite élargir les relations bilatérales basées sur la confiance mutuelle, le renforcement et la coopération amicale, l'opposition à l'unilatéralisme, la protection du multilatéralisme et de la justice internationale sous l'administration du président élu Ibrahim Raisi, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise. Toujours lors de cette conversation téléphonique, Zarif a salué les efforts de la Chine pour fournir à l'Iran du vaccin anti-coronavirus. L'Iran condamne une décision du tribunal suprême de l'Union européenne qui autorise l'interdiction du foulard sous certaines conditions. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que le verdict est une mesure discriminatoire, honteuse contre les libertés religieuses. Selon le diplomate, la mesure peut conduire à la montée de l'islamophobie et de la violence contre les musulmans dans les pays européens. La Cour de justice de l'Union européenne, basée au Luxembourg, a statué jeudi que les employeurs pouvaient interdire le port de symboles visibles de croyances religieuses ou politiques, tels que le foulard. Une nouvelle session virtuelle du Conseil suprême de l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique a débuté dans la capitale iranienne Téhéran en mettant l'accent sur la question de la paix et de la sécurité durable en Afghanistan. La conférence en ligne sous le thème « Afghanistan, paix et sécurité durable » a été ouverte par le discours inaugural du secrétaire général de l'Assemblée Ali Akbar Velayati. Il a dénoncé les conséquences destructives de l'occupation de l'Afghanistan par les États-Unis sous faux prétexte de la guerre antiterroriste, affirmant que les forces américaines quittent maintenant le pays de manière humiliante. Pour cette autorité iranienne, les élites afghanes sauront déjouer, de par leur vigilance, les complots ennemis. Sachez d'autre part que le gouvernement afghan et les talibans ont convenu d'accélérer leurs négociations de paix au Qatar. Dans leur déclaration finale, les délégations représentatives ont déclaré qu'elles s'étaient engagées à poursuivre les négociations jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Le communiqué ajoute que les deux parties s'efforcent de fournir une assistance humanitaire dans tout l'Afghanistan. Autre thème, les Palestiniens ont condamné la prise d'assaut de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte de Quds occupée par les forces israéliennes à la veille d'une grande fête musulmane. L'autorité palestinienne a tenu Israël pour responsable de l'escalade provoquée par les incursions dans le lieu de culte musulman. Elle a qualifié cette décision de provocatrice et de menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Hajj 2021, message du leader. Toute la région islamique demeure l'arène de la résistance contre les maux américains. Dans son message du Hajj 2021, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a qualifié la résistance de clé pour compenser le retard des pays islamiques et déclaré: toute la région islamique demeure l'arène de la résistance contre les maux des États-Unis et de leurs alliés. Ce qui suit est l'intégralité du message de l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei adressé aux nations musulmanes à l'occasion de l'arrivée de la saison du Hajj. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et louange à Dieu, Seigneur des mondes, et salutations sur Mohammed, sa lignée immaculée, ses compagnons élus et ceux qui les suivent sincèrement jusqu'au jour du jugement. Frères et sœurs musulmans du monde entier, cette année encore, l'humain musulman est privé des grandes bénédictions du Hajj. Et les corps passionnés, remplis de soupirs et de regrets, ont raté le banquet dans la maison honorable que Dieu, le tout sage et le très miséricordieux, a fondée pour les gens. C'est la deuxième année que la saison de la joie et de la félicité spirituelle du Hajj devient la saison de la séparation et du regret. Le fléau de cette maladie pandémique et peut-être aussi les politiques qui régissent le sanctuaire sacré ont privé les croyants de l'admiration du symbole de l'unité, de la grandeur et de la spiritualité de l'humain islamique et couvrent ce sommet glorieux de nuages et de poussière. Cette épreuve ressemble aux autres expériences passagères dans l'histoire de l'humain musulman qui peuvent conduire à un avenir brillant. Il est important que le Hajj, dans sa vraie forme, survive dans les cœurs et les âmes des musulmans. Et si aujourd'hui son aspect rituel est temporairement absent, il ne faut pas que son message transcendant en soit amoindri. Le Hajj est un rite plein de mystères et de secrets. Sa combinaison de mouvement et d'immobilité forme l'identité du musulman et de la communauté musulmane et montre ses beautés au monde entier. D'autre part, il permet l'ascension spirituelle dans le cœur des serviteurs par leur appel, l'humilité et les supplications et les rapproches de Dieu. Grâce à ces mouvements harmonieux et leur coordination, il unit des frères venus des quatre coins du monde et expose au monde le plus haut symbole de l'humain islamique avec ses rituels significatifs et mystérieux et montre aux malveillants la détermination et la grandeur de l'humain. Cette année, le pèlerinage à la Sainte Maison n'est pas possible. Mais l'attention au Seigneur de la maison, le rappel, l'humilité, les prières et le repentir sont possibles. La présence à Arafat n'est pas possible, mais les prières et supplications qui développent notre conscience sont possibles le jour d'Arafat. Il n'est non plus possible de lapider Satan à Mina. Mais il est possible de répudier et de rejeter en tout lieu les diables avides de pouvoir. Il n'y a pas cette année cette présence unifiée des corps autour de la Kaaba, mais la présence unifiée des cœurs autour de versets clairs du Saint-Coran et le cramponnement à la corde de Dieu sont des devoirs constants. Nous, les adeptes de l'islam, qui comptons aujourd'hui une énorme population, de vastes territoires, d'innombrables ressources naturelles et des nations vivantes et vigilantes, devons façonner l'avenir avec nos ressources et nos possibilités. Au cours des 150 dernières années, les nations musulmanes n'ont joué aucun rôle dans le sort de leur pays et le choix de leur gouvernement, et à quelques exceptions près, était constamment gouvernée par les politiques des gouvernements occidentaux agresseurs et soumise à la cupidité, aux ingérences et à la malveillance de ces derniers. Le retard scientifique et la dépendance politique de nombreux pays sont aujourd'hui le produit de cette passivité et de cette inefficacité. Nos nations, nos jeunes, nos scientifiques, nos érudits religieux, nos intellectuels, nos politiciens, nos partis et nos communautés doivent aujourd'hui rattraper ce passé honteux et infâme, se soulever et résister à la coercition, aux ingérences et à la méchanceté des puissances occidentales. Le discours de la République islamique d'Iran, qui inquiète et irrite le monde des arrogants, est une invitation à cette résistance contre les ingérences et la malfaisance des États-Unis et d'autres puissances agressives, et une prise en main de l'avenir du monde de l'islam sur la base des enseignements islamiques. Naturellement, les États-Unis et leurs alliés sensibles au terme de résistance ont attisé leur animosité contre le front de la résistance islamique. La collaboration de certains gouvernements est aussi une réalité amère qui assure la poursuite de ces malfaisances. Le droit chemin que les rituels du Hajj, le saï entre Safa et Marwa, le tawaf autour de la Kaaba, l'arrêt à Arafat, les lapidations de Satan, les rituels, la gloire et l'unité du Hajj nous montrent est celui de la confiance en Dieu, de l'attention au pouvoir éternel de Dieu, de la confiance nationale, de la croyance en l'effort, de la lutte, de la détermination à avancer et du grand espoir de victoire. Les réalités dans les régions islamiques ajoutent à cet espoir et renforcent cette détermination. D'autre part, les malheurs du monde islamique, le retard scientifique, la dépendance politique et les troubles économiques et sociaux nous confrontent à une grande tâche et à une lutte inlassable. La Palestine occupée appelle à notre aide. La situation du Yémen opprimé, couvert de sang, attriste les cœurs. Les événements tragiques de l'Afghanistan inquiètent tout le monde. les événements amers en Irak, en Syrie, au Liban et dans d'autres pays musulmans, où la main méchante et les ingérences des États-Unis et de leurs alliés sont évidentes, réveillent le zèle et provoquent les efforts de la jeunesse. D'autre part, la montée des forces de résistance dans toute cette région sensible, le réveil des nations et la motivation d'une jeune génération dynamique remplissent les cœurs d'espérance. La Palestine tire du fourreau, l'épée d'Al-Quds dans toutes ses régions. À Quds, à Gaza, en Cisjordanie, dans les territoires de 1948 et dans les camps, où tous se dressent et écrasent au sol le visage de l'agresseur pendant 12 jours. Un Yémen assiégé et solitaire se montre résistant depuis 7 ans devant la guerre, les crimes et l'oppression d'un ennemi maléfique. Et malgré la pénurie de denrées alimentaires, de médicaments et de moyens de subsistance, ne cède pas aux oppresseurs et les effraie même par son autorité et ses initiatives. En Irak, les forces de la résistance repoussent carrément la main de l'occupant américain et de Daesh, leurs subordonnés, et expriment explicitement leur forte détermination à contrer toute forme d'ingérence et de malfaisance des États-Unis et de leurs alliés. L'effort de propagande américain visant à déformer l'image de la détermination, la volonté et le mouvement de la jeunesse zélée et des éléments de la résistance en Irak, en Syrie, au Liban et dans d'autres pays, en les attribuant à l'Iran ou toute autre source, est une insulte à ces jeunes courageux et éveillés, ce qui résulte d'une méconnaissance totale chez les Américains des nations de la région. Cette compréhension erronée a conduit à l'humiliation des États-Unis, qui, après leur arrivée tumultueuse en Afghanistan il y a 20 ans, et l'utilisation d'armes, de bombes et de tirs contre des gens sans défense et des civils, se sentent pris dans un bourbier et obligés d'en retirer leurs forces et leur équipement militaire. Bien sûr, la nation afghane, éveillée, doit prêter attention aux outils de renseignement américains et aux armes de la guerre d'influence dans son pays, et se tenir vigilante. Les nations de la région ont prouvé qu'elles sont éveillées et vigilantes, et que leur approche est différente de celle de certains gouvernements qui, afin de satisfaire les États-Unis, se résignent même à leurs demandes sur une question vitale comme la question palestinienne. Les gouvernements qui établissent ouvertement ou secrètement des liens d'amitié avec le régime des occupants sionistes nient ainsi le droit du peuple palestinien à sa patrie historique. Il s'agit d'un vol des biens palestiniens. Ils ne se contentent pas à causer la perte des ressources naturelles de leur propre pays, mais causent également la perte des biens du peuple palestinien. Chers frères et sœurs, notre région et ses développements rapides et variés sont une suite de leçons et d'expériences, d'une part, du pouvoir résultant de la lutte et de la résistance contre les menaces des agresseurs, et d'autre part, de l'humiliation qui résulte, la résignation, de la faiblesse et de la soumission à leurs contraintes. La promesse sincère de Dieu est la victoire des Moudjahidines, qui luttent dans la voie de Dieu. Si vous faites triompher la cause de Dieu, il vous fera triompher et raffermira vos pas, comme l'a promis le Coran. Le premier effet de cette lutte est d'empêcher les États-Unis et d'autres oppresseurs internationaux de s'ingérer et de continuer leur méchanceté dans les pays islamiques. Inch'Allah. Je demande à Dieu, le Tout-Puissant, d'aider les nations musulmanes. J'envoie mes salutations à l'imam Mahdi, que nos âmes soient sacrifiées pour lui. Je demande à Dieu de hausser le rang de notre magnanime imam Khomeini et le rang des honorables martyrs. Que la paix de Dieu soit sur ses serviteurs justes. Seyyed Ali Khamenei, 17 juillet 2021, soit le 6 Zihajja 1442.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder ce qui se passe actuellement au Liban. Si vous avez suivi l'actualité, vous en êtes rendu compte que le Liban traverse actuellement une crise politique et très particulièrement une crise économique grave. Comment peut-on expliquer cette crise économique du pays? Pourquoi le pays, en fait, a fini par aboutir, si vous voulez, à une telle situation? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Quelle est, en fait, la position de la résistance libanaise? Très particulièrement, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, sur ce sujet. Et comment expliquer cette inquiétude du côté israélien face à cette crise que traverse actuellement le Liban, parce que jusqu'à présent, les Israéliens avaient mis tout dans la balance pour affaiblir le Liban, pour affaiblir l'armée libanaise. Mais ironie de l'histoire, il y a des voix qui s'élèvent au sein du régime israélien pour, en fait, appeler les Occidentaux à venir au secours de l'armée libanaise. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, d'autant plus que les Israéliens sont très très inquiets de voir, en fait, la situation tourner en faveur de la résistance libanaise. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Eli Atem. Maître Atem, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs et merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Maître Eli Atem. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission une analyste politique de franco-syrienne, spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de TV, à tous les téléspectateurs et à Maître Eli Atem.
Merci à vous, Madame Midani. Madame Midani, je viens de lancer le sujet, cette crise que traverse actuellement le Liban, en fait, surtout cette inquiétude du côté israélien, cette position de la résistance libanaise à cet égard. Pourriez-vous nous livrer, s'il vous plaît, votre analyse, Madame Midani?
En effet, la crise du Liban est très très importante aujourd'hui pour deux raisons. Alors d'abord, vous savez que depuis 11 ans, la société est agressée par les forces de l'OTAN et des États-Unis et Israël. La Syrie s'est bien opposée à l'ensemble des terroristes qui ont été dépêchés de tout un tas de pays. Et puis le Liban a aussi été agressé, rappelons-le, et aujourd'hui nous sommes au mois de juillet, c'est l'anniversaire, le 14e anniversaire de cette grosse agression contre le Liban en 2006. Donc la victoire du Liban, la victoire de la Syrie est absolument insupportable pour les pays hégémonistes, dominateurs comme les États-Unis, qui ne cessent de déclarer que leur raison d'être est, enfin, leur principale stratégie, c'est de défendre l'existence de l'État israélien et sa pérennité dans la région. Or, effectivement, les différentes victoires du peuple libanais et de la résistance libanaise, et récemment d'ailleurs du peuple palestinien, font que, effectivement, Israël a commencé, je dirais, son déclin. Donc, ça, c'est la raison directe, je dirais, et même permanente. Et puis, l'autre aspect, c'est à partir du moment du 4 août, en fait, l'effondrement du port de Beyrouth, les manifestations qui ont été aussi provoquées le 17 octobre 2019, en fait, hein, tout ceci fait que la crise économique est importante. L'embargo américain par le Col César, le dit Col César, injuste et criminel, est appliqué sur le Liban. Il y a au Liban une division sur le plan politique entre des partisans des forces hégémoniques, des partisans de l'État, des États-Unis, des partisans inconditionnels aussi d'Israël, font que effectivement ils essayent de tout faire pour mettre la résistance en difficulté, et le front de la résistance, le front libanais, je dirais, de la résistance, ils voudraient le mettre en difficulté et mettre sur son dos tout un tas de responsabilités. À tort, bien sûr. Rappelons quand même la chose en 2005, lorsque le Rafik al-Hariri a été assassiné. Immédiatement, ils avaient mis les torts sur le dos de l'État syrien, puis par la suite sur le Hezbollah. Donc, tout ceci converge, en fait. Il y a une volonté depuis longtemps de mettre en difficulté la résistance libanaise au Liban, et puis surtout que les pays occidentaux se réemparent ou s'emparent du Liban complètement et terminent cette phase de victoire de la résistance pour la libération des terres libanaises et contre l'État israélien.
Donc, merci.
Effectivement, c'est une volonté réelle des pays de l'OTAN et des États-Unis et Israël, bien entendu.
On va revenir, Madame Midani, sur cette position des pays occidentaux et également du régime israélien. On va revenir plus tard sur ce sujet parce que c'est un point important que venez en fait de soulever. Maître Eliatem, vous avez entendu des explications de Madame de Aïssa Midani. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Vous savez, il faut savoir une chose, il faut commencer par un constat qui est le suivant. C'est que vous avez deux pays diamétralement opposés, deux modèles et deux systèmes qui sont opposés. En 1948, il y a eu la création de l'État d'Israël, qui est une ethnocratie, qui est fondée sur un régime qui est communautaire, et puis ça a été renforcé petit à petit jusqu'en 2017 et 2018 quand il y a eu cette fameuse loi qui veut que Israël soit un pays des juifs, alors que le Liban, c'est diamétralement opposé, c'est un pays multiconfessionnel comme l'a été la Palestine autrefois. Donc l'objectif israélien et américain, parce que quand même il y a une alliance américano-sioniste qui est celle de d'effriter les pays du Proche et du Moyen-Orient en créant des tensions et des conflits intercommunautaires, interconfessionnels ou transconfessionnels et transcommunautaires pour créer de nouveaux États, de mini-entités qui sont à l'instar de l'État d'Israël, c'est-à-dire des ethnocraties ou des régimes communautaires, qui sont voués à s'entretuer entre elles. Et si vous vous souvenez, c'est que c'est d'ailleurs le projet qui a été opéré par des services secrets qui mettaient des gens les uns contre les autres, ou bien les groupes les uns contre les autres. C'est ce qui s'est passé en 1975 au Liban, quand on a fomenté des troubles entre les Palestiniens et les Libanais. Les Palestiniens ont été approchés par les services étrangers américains en leur disant « Écoutez, regardez ce qui vous est passé en Jordanie, les Libanais vont vous mettre dehors ». Et les Libanais, ils sont venus approcher les Libanais en leur disant « Les Palestiniens vont prendre le Liban à la place de la Palestine ». D'où ce conflit, ce clash entre les Libanais et les Palestiniens qui vite a conduit à une déstabilisation du pays du Cèdre et une guerre intercommunautaire, et je ne dirais pas religieuse, parce que au départ c'était les chrétiens contre les musulmans, et après nous avons vu au sein des communautés chrétiennes des divisions, et après au sein des communautés musulmanes des divisions, et au sein même de chaque communauté, c'est-à-dire au sein de la communauté chiite, des dissensions et des conflits armés internes. Et puis après, il y avait la Syrie qui est entrée également dans le jeu, et puis qui a été également entraînée par ces manipulations étrangères. Donc l'intérêt d'Israël, c'est de sauvegarder cette instabilité. Alors, le Hezbollah est arrivé, donc comme vous le savez, c'est un peu comme tous les mouvements politiques, il est intervenu sur le terrain. On n'a jamais pensé qu'il va obtenir un aval, je dirais communautaire, de la part des autres communautés libanaises, jusqu'à devenir un mouvement de résistance nationale, appuyé d'ailleurs beaucoup plus par des chrétiens que par les autres musulmans, aussi bien sunnites que chiites. Madame Midani a rappelé un élément qui est très important, c'est 2005, l'assassinat de Rafik Hariri, qui avait pour objectif, après cette restabilisation du Liban qui a eu lieu à partir de 1990, de recréer de nouveau des tensions intercommunautaires. Et c'est le Hezbollah qui a fait échouer cela. Et c'est la raison pour laquelle Israël est intervenu et frappé non pas le Hezbollah, mais toutes les infrastructures libanaises dans les endroits où le Hezbollah ne se trouvait pas. Donc son objectif n'était pas le Hezbollah, mais c'était le prétexte, soi-disant, de l'un des discours du Sayyid Nasrallah pour venir opérer cela, pour créer cette dissension et pour tout mettre sur le dos du Hezbollah. Ça n'a pas marché et les diverses communautés libanaises n'ont pas, si vous voulez, n'ont pas répondu présent à de nouveau au retour de cette guerre civile. La même chose, il y a eu plusieurs tentatives, y compris lors de la guerre en Syrie où le Hezbollah est allé combattre Daesh. Et d'ailleurs, le patriarche maronite avait dit que s'il n'y avait pas le Hezbollah, Daesh serait arrivé aux frontières de Jounieh, qui est le fief des chrétiens. Donc, que s'est-il passé récemment en 2019? Donc, en 2019, il y a eu une crise financière. Une crise financière qui est téléguidée par les États-Unis. Pourquoi? En fait, la Banque centrale, elle a toujours donc des réserves, d'une part, et d'autre part, des avoirs. La dette de l'État libanais est montée jusqu'à 127 milliards de dollars. Parallèlement, le Fonds monétaire international, la Banque internationale et le programme CEDRE ont arrêté subitement les aides pour le Liban pour empêcher l'État libanais de faire face à sa dette. C'est ce qui a créé cette crise financière et qui l'a renforcée. En plus, il y a également les sanctions contre la Syrie et la loi César qui ont créé une crise financière inouïe, c'est-à-dire les banques ont du jour au lendemain interdit les transactions financières et ont bloqué les avoirs des gens, en fait, des épargnants, et ce qui a créé une crise économique qui est, si vous voulez, la résultante, la conséquence de cette crise financière, avec cette inflation, c'est-à-dire cette dégringolade de la livre libanaise, et qui est passée de 2019 à aujourd'hui de 1500 livres le dollar à 20 000 livres le dollar. Et tout cela, si vous voulez, pour créer un certain sentiment que cela est dû au fait que le Hezbollah participe au gouvernement, que le chef de l'État, le général Aoun, et qu'une partie donc des chrétiens, des maronites, sont les alliés du Hezbollah, et de ce fait de créer une certaine dissension, une tension, surtout entre les sunnites et les chiites, Et bien entendu, les chrétiens sont divisés entre des pro-sunnites et des pro-chiites. Et il y a eu de ce fait-là toutes ces interventions de la part des chancelleries pour créer des mouvements populaires, pour retourner de nouveau à la caisse de départ, c'est-à-dire créer cette tension. Entraîner le Hezbollah dans cette guerre. Or, le Hezbollah, malgré toutes les attaques qu'il a subies, n'a pas répondu d'une part à Israël et d'autre part à ses provocations et n'est pas tombé dans cette guerre civile, ce que d'ailleurs le Seyyed Nasrallah a toujours déclaré pour apaiser ses tensions et ne pas tomber dans le piège israélien qui, pour amplifier encore les choses, a profité de l'explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth. Cette explosion, d'ailleurs, dont les circonstances sont très obscures jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, le chef de l'État, le président Michel Aoun, le président de la République, avait parlé d'une éventuelle attaque par des missiles et que beaucoup d'observateurs ont vu, et certains même israéliens, ont parlé éventuellement d'une action du Mossad israélien.
Donc, merci beaucoup.
Aujourd'hui, rien n'est clair, on ne peut pas le confirmer, mais c'est une hypothèse, et qui d'ailleurs, Israël qui a toujours voulu favoriser le port de Haïfa au profit du port de Beyrouth. Et donc, c'est ce qui explique la situation dramatique que vit aujourd'hui le pays du Cèdre.
Madame Midani, vous avez suivi les explications, l'analyse de Maître Eliatem. Maître Eliatem qui estime que voilà, la crise économique actuelle est la conséquence, la conséquence de la crise financière. Maître Eliatem a expliqué qui a été, si vous voulez, décidé par des institutions internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale en ce qui concerne l'arrêt de l'aide au Liban. Maître Eliatem estime que voilà, cette crise vise le Hezbollah libanais, la résistance libanaise, parce que son objectif est en fait d'encourager les Libanais à s'insurger contre le Hezbollah libanais et la résistance libanaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani?
Effectivement, cette crise vise, d'ailleurs, ils le disent, ils ne le cachent pas, sans arrêt, ils reviennent à vouloir accuser le Hezbollah et puis le Fonds libanais de la résistance. Ils essayent aussi de créer des tensions et des diversions au sein même du camp de la résistance, en fait, donc entre le général Aoun et le Hezbollah, entre le mouvement Amal et le Hezbollah, entre le mouvement Marada et le Hezbollah. Mais en fait, il y a quand même une conscience, je dirais, nationale, de l'ensemble des forces de la résistance qui font qu'ils n'arrivent pas à créer ces diversions et ces dissensions. Même, ils visent aussi une guerre civile à nouveau, mais effectivement, la conscience, la haute conscience, je dirais, nationale de Hezbollah fait qu'il ne répond pas à ces provocations, même parfois des provocations confessionnalistes.
Merci beaucoup, Maître Eliatem, d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci beaucoup pour votre analyse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Midani, d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci beaucoup pour votre analyse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz
céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour une autre édition de la série d'émissions « Iran, pays des merveilles ». Nous visitons aujourd'hui la ville de Natanz et le village de Niassar. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Natanz est une ville de la province d'Ispahan. La chaleur du désert se fait sentir même en avril. Passé la bifurcation vers Abyané, la route se met à onduler pour s'enfoncer dans les montagnes en bordure du grand désert. On prend de l'altitude et passé un petit col, la route aboutit à un haut plateau. Entre feu et glace, entre désert et montagne, Natanz, c'est une petite ville cachée derrière de luxuriants jardins, comme une oasis posée, au hasard, sur un haut plateau entouré de montagnes. À quelques kilomètres vers l'est, passe une petite chaîne de montagnes dont les formes préfigurent la présence du désert, on retrouve la configuration plate du grand Kavir, qui occupe une bonne partie de la géographie de l'Iran central. Depuis la route nationale, on repère vite la mosquée Jame, dont le minaret et le dôme en forme de cône se distinguent d'un quartier de maisons en terre par leur mosaïque turquoise. Sur une petite place, aux arbres centenaires, on découvre la façade de cette ancienne mosquée, un chef-d'œuvre de mosaïque turquoise et de pierres gravées. Entre les deux étages ouverts, qui bordent la cour intérieure, on retrouve des inscriptions coraniques, très stylisées, gravées dans la pierre. Dans une salle, en retrait, une lumière douce est diffusée dessous la haute voûte par des encadrements de fenêtres travaillées. Là aussi, les superbes inscriptions qui longent la pièce sont une synthèse entre espace et lumière. Autour de la mosquée Jamé, le vieux quartier de maisons en torchis est encore plus ou moins intact. Même ailleurs, dans la petite ville, on remarque surtout l'état de ruines plus ou moins avancé de ces maisons en terre traditionnelle. Cet autre Iran, le voici. Des vestiges qui suggèrent qu'à une époque pas si lointaine, l'homme était encore l'artisan de sa propre maison. En témoignent les rondeurs des murs, la forme des escaliers, les angles arrondis des portes et fenêtres. Dans les maisons en terre, torchis, il n'y a pas d'angle droit. Tout suit la courbe naturelle que lui a donnée la main de l'homme, mettant à profit les matériaux trouvés sous ses pieds. On ne peut rester indifférent à cet ensemble harmonieux et à l'atmosphère très spéciale qui s'en dégage. Sous le charme de cette architecture naturelle, on commence alors à détester farouchement la laideur des nouvelles maisons à support en acier, rembourrées de briques et dont la finition extérieure n'aura peut-être jamais lieu. Carré, alourdi d'encadrements de fenêtres en métal, surmonté de gros climatiseurs rouillés aux gros tuyaux d'échappement, leur laideur choque au milieu de la douceur et de la chaleur du torchis. Mais ce qui fait le plus mal au cœur, c'est de voir qu'une grande majorité de ces maisons en torchis sont à l'abandon et qu'il y a seulement une infime minorité de gens qui continuent à construire des maisons de terre. La route quitte le plateau de Nataz pour descendre vers une petite plaine sèche parsemée de villages en torchis. Et ainsi, de plateaux en plaine où les arbres et la végétation indiquent la présence des villages, on s'éloigne des hautes montagnes de Calcas. La chaîne de montagnes de Calcas s'étend de Kashan à Ardestan sur une longueur de plus de 100 km et est composée essentiellement de roches magmatiques, pyroclastiques formées de projections volcaniques et de quelques roches sédimentaires datant de l'ère tertiaire. Dans sa partie centrale, son origine date de l'époque pré-cambrienne paléozoïque. Son sommet, proche de Nataz, culmine à près de 3900 mètres. Bien que Calcas signifie vautour en persan, il est possible que ce nom provienne de la présence de Kassites, ancien peuple de Mésopotamie. En ancien assyrien, Calcasie se traduit par ville ou terre des Kassites. Niassal est un village doté d'une nature verdoyante et riche en ressources qui se situe à 28 km à l'ouest de Kashan. Une des routes menant à Niassal traverse Rawand, 12 km au nord-ouest de Kashan. Rawand est la dernière ville sur la route qui relie Téhéran à Kashan. À partir de cette ville, une route asphaltée se détache de la route principale vers l'ouest et 20 km plus loin atteint l'embranchement de Niassal Mashhad Ardahal. De cet embranchement se détache une départementale qui court sur 8 km pour atteindre le village de Niassal, tandis qu'une autre route va à Mashhad Ardahal, où se trouve la tombe du célèbre poète iranien Sohrab-Sepehri, puis à Dilijan, sur la route de Téhéran-Ispahan. L'oasis verdoyante de Niassal, située au centre d'une région désertique, déploie un paysage d'une beauté remarquable. En janvier et février, les fleurs des amandiers viennent embellir ce petit paradis sur terre. Le village de Mashhad Ardahal dépend du district de Niassal, à 42 km au nord-ouest de Kashan, sur la route de Niassal-Dilijan. Il se situe à 1825 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec un climat doux et parfois avec des petites poussées de froid. Le village s'étale au pied des montagnes à proximité du désert, ce qui influe sur son architecture. Des murs très épais, en argile et en briques, des cours centrales, des bassins, de petits jardins, des ivanes, de petites alvéoles, laissant pénétrer l'air et la lumière, sont les caractéristiques de l'architecture de ces maisons construites vers le sud. La plupart des habitants du village s'occupent d'agriculture et de jardinage. Il y a pourtant nombre de villageois qui s'activent dans l'artisanat. Parmi les produits agricoles les plus importants, on peut citer le blé, l'avoine, les céréales, les noix et les amandes. Les femmes et les filles s'occupent en général du tissage de tapis, qui constitue le plus important artisanat de ce village. Nous voici au terme de cette émission. Amis auditeurs, la prochaine fois, nous vous parlerons de Naïn, une autre ville de la province d'Ispahan. Soyez donc nombreux, la semaine prochaine aussi, pour nous rejoindre sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. D'ici là, au revoir et bonne semaine. Thank you.